Jules Michelet, La sorcière. Livre deuxième, chapitre 6. Gaufridi, 1610. L'ordre des Ursulines semblait le plus calme des ordres, le moins déraisonnable. Elle n'était pas oisive, s'occupant un peu à élever des petites filles. La réaction catholique, qui avait commencé avec une haute ambition espagnole d'extase, impossible alors, qui avait follement bâti force couvents de carmélites, feuillantines et capucines, s'était vue bientôt au bout de ses forces. Les filles qu'on murait là si durement pour s'en délivrer mouraient tout de suite, et, par ces morts si promptes, accusaient horriblement l'inhumanité des familles. Ce qui les tuait, ce n'était pas les mortifications, mais l'ennui et le désespoir. Après le premier moment de ferveur, la terrible maladie des cloîtres décrite dès le 5e siècle par Cassien, l'ennui pesant, l'ennui mélancolique des après-midi, l'ennui tendre qui égare en d'indéfinissables langueurs les minait rapidement. D'autres étaient comme furieuses, le sang trop fort les étouffait. Une religieuse, pour mourir décemment sans laisser trop de remords à ses proches, doit y mettre environ 10 ans. C'est la vie moyenne des cloîtres. Il fallut donc en rabattre, et des hommes de bon sens et d'expérience sentirent que pour les prolonger, il fallait les occuper quelque peu, ne pas les tenir trop seuls. Saint François de Sales fonda les visitandines, qui devaient deux à deux visiter les malades. César de Bus et Romillon, qui avaient créé les prêtres de la doctrine, en rapport avec l'oratoire, fondèrent ce qu'on eût pu appeler les filles de la doctrine, les Ursulines, religieuses enseignantes que ces prêtres dirigeaient, le tout sous la haute inspection des évêques, et peu, très peu monastiques, elles n'étaient pas cloîtrées encore. Les visitandines sortaient, les Ursulines recevaient, au moins les parents des élèves. Les unes et les autres étaient en rapport avec le monde, sous des directeurs estimés. L'écueil de tout cela, c'était la médiocrité. Quoique les oratoriens et doctrinaires aient eu des gens de grand mérite, l'esprit général de l'ordre était systématiquement moyen, modéré, attentif à ne pas prendre un vol trop haut. Le fondateur des Ursulines, Romillon, était un homme d'âge, un protestant converti, qui avait tout traversé et était revenu de tout. Il croyait ces jeunes provençales déjà aussi sages et comptait tenir ses petites ouailles dans les maigres pâturages d'une religion oratorienne, monotone et raisonnable. C'est par là que l'ennui rentrait. Un matin, tout échappa. Le montagnard provençal, le voyageur, le mystique, l'homme de trouble et de passion, Gaufridi, qui venait là comme directeur de Madeleine, eut une bien autre action. Elles sentirent une puissance, et sans doute par les échappées de la jeune folle amoureuse, elles surent que ce n'était rien moins qu'une puissance diabolique. Toutes sont saisies de peur, et plus d'une aussi d'amour. Les imaginations s'exaltent, les têtes tournent, en voilà 5 ou 6 qui pleurent, qui crient et qui hurlent, qui se sentent saisies du démon. Si les Ursulines eussent été cloîtrées, murées, Gaufridi, leur seul directeur, eût pu les mettre d'accord de manière ou d'autre. Il aurait pu arriver, comme au cloître du Quesnoy en 1491, que le diable, qui prend volontiers la figure de celui qu'on aime, se fût constitué sous la figure de Gaufridi, amant commun des religieuses. Ou bien, comme dans ces cloîtres espagnols dont parle Llorente, il leur eût persuadé que le prêtre sacre de prêtrise, celle à qui il fait l'amour, et que le péché avec lui est une sanctification. Opinion répandue en France, et à Paris même, où ces maîtresses de prêtres étaient dites les consacrées. L'Estoile, édition Michaud, 561. Gaufridi, maître de toutes, s'en tint-il à Madeleine? Ne passa-t-il pas de l'amour au libertinage? On ne sait. L'arrêt indique une religieuse qu'on ne montra pas au procès, mais qui reparaît à la fin comme s'étant donnée au diable et à lui. Les Ursulines étaient une maison tout à jour, où chacun venait, voyait. Elles étaient sous la garde de leur doctrinaire, honnête et d'ailleurs jaloux. Le fondateur même était là, indigné et désespéré. Quel malheur pour l'ordre naissant, qui à ce moment même prospérait, s'étendait partout en France. Sa prétention était la sagesse, le bon sens, le calme, et tout à coup, il délire. Romillon eût voulu étouffer la chose. Il fit secrètement exorciser ses filles par un de ses prêtres. Mais les diables ne tenaient compte d'exorcistes doctrinaires. Celui de la petite blonde, diable noble qui était Belzébuth, démon de l'orgueil, ne daigna desserrer les dents. Il y avait parmi ses possédés une fille particulièrement adoptée de Romillon, fille de 20 à 25 ans, fort cultivée et nourrie dans la controverse, née protestante mais qui, n'ayant ni père ni mère, était tombée aux mains du père, comme elle, protestant converti. Son nom de Louise Capot semble roturier. C'était, comme il parut trop, une fille d'un prodigieux esprit, d'une passion enragée. Ajoutez-y une épouvantable force, elle soutint 3 mois, outre son orage infernal, une lutte désespérée qui eût tué l'homme le plus fort en 8 jours. Elle dit qu'elle avait 3 diables. Vérine, bon diable catholique, Léger, un des démons de l'air, Léviathan, mauvais diable, raisonneur et protestant, enfin un autre qu'elle avoue être celui de l'impureté. Mais elle en oublie un, le démon de la jalousie. Elle haïssait cruellement la petite, la blonde, la préférée, l'orgueilleuse demoiselle noble. Celle-ci, dans ses accès, avait dit qu'elle avait été au sabbat, et qu'elle y avait été reine, et qu'on l'y avait adorée, et qu'elle s'y était livrée. Mais au prince, quel prince? Louis Goufridi, le prince des magiciens. Cette Louise, à qui une telle révélation avait enfoncé un poignard, était trop furieuse pour en douter. Folle, elle crut la folle, afin de la perdre. Son démon fut soutenu de tous les démons des jalouses. Toutes crièrent que Goufridi était bien le roi des sorciers. Le bruit se répandait partout qu'on avait fait une grande capture, un prêtre roi des magiciens, le prince de la magie, pour tous ses pays. Tel fut l'affreux diadème de fer et de feu que ces démons femelles lui enfoncèrent au front. Tout le monde perdit la tête, et le vieux Romillon même. Soit haine de Goufridi, soit peur de l'Inquisition, il sortit l'affaire des mains de l'évêque et mena ses 2 possédés, Louise et Madeleine, au couvent de la Sainte-Baume, dont le prieur dominicain était le père Michaelis, inquisiteur du pape en terre papale d'Avignon, et qui prétendait l'être pour toute la Provence. Il s'agissait uniquement d'exorcisme, mais, comme les 2 filles devaient accuser Goufridi, celui-ci allait par le fait tomber aux mains de l'Inquisition. Michaelis devait prêcher l'Advent à Aix, devant le Parlement. Il sentit combien cette affaire dramatique le relèverait. Il la saisit avec l'empressement de nos avocats de cour d'assises quand il leur vient un meurtre dramatique ou quelque cas curieux de conversation criminelle. Le beau dans ce genre d'affaires, c'était de mener le drame pendant l'Advent, Noël et le Carême, et de ne brûler qu'à la Semaine Sainte, la veille du grand moment de Pâques. Michaelis se réserva pour le dernier acte et confia le gros de la besogne à un dominicain flamand qu'il avait, le docteur Dompte, qui venait de Louvain, qui avait déjà exorcisé, était ferré en ses sottises. Ce que le flamand d'ailleurs avait à faire de mieux, c'était de ne rien faire. On lui donnait en Louise un auxiliaire terrible, 3 fois plus zélé que l'Inquisition, d'une inextinguible fureur, d'une brûlante éloquence, bizarre, baroque parfois, mais à faire frémir, une vraie torche infernale. La chose fut réduite à un duel entre les 2 diables, entre Louise et Madeleine, par devant le peuple. Des simples qui venaient là au pèlerinage de la Sainte-Baume, un bon orfèvre par exemple et un drapier, Jean de Troyes en Champagne, était ravi de voir le démon de Louise battre si cruellement les démons et fustiger les magiciens. Ils en pleuraient de joie et s'en allaient en remerciant Dieu. Spectacle bien terrible cependant, même dans la lourde rédaction des procès-verbaux du flamand, de voir ce combat inégal. Cette fille, plus âgée et si forte, robuste provençale, vraie race des cailloux de la Croix, chaque jour lapidée, assommée, écrasée cette victime jeune et presque enfant, déjà suppliciée par son mal, perdue d'amour et de honte dans les crises de l'épilepsie. Le volume du flamand, avec l'addition de Michaelis, en tout 400 pages, est un court extrait des invectives, injures et menaces que cette fille vomit 5 mois, et de ses sermons aussi, car elle prêchait sur toute chose, sur les sacrements, sur la venue prochaine de l'Antéchrist, sur la fragilité des femmes, etc., etc. De là, Au nom de ces diables, elle revenait à la fureur et deux fois par jour reprenait l'exécution de la petite, sans respirer, sans suspendre une minute l'affreux torrent, à moins que l'autre éperdu, un pied en enfer, dit-elle elle-même, ne tombât en convulsion et ne frappa les dalles de ses genoux, de son corps, de sa tête évanouie. Louise est bien au quart folle, il faut l'avouer. Nulle fourberie n'eût suffi à tenir cette longue gageure. Mais sa jalousie lui donne, sur chaque endroit où elle peut crever le cœur à la patiente et y faire entrer l'aiguille, une horrible lucidité. C'est le renversement de toute chose. Cette Louise, possédée du diable, communie tant qu'elle veut. Elle gourmande les personnes de la plus haute autorité. La vénérable Catherine de France, la première des Ursulines, vient voir cette merveille, l'interroge et tout d'abord la surprend en flagrant délit d'erreur, de sottise. L'autre, impudente, en est quitte pour dire, au nom de son diable, le diable est le père du mensonge. Un minime, homme de sens, qui est là, relève ce mot et lui dit, « Alors tu mens !» Et aux exorcistes, « Que ne faites-vous taire cette femme ?» Il leur cite l'histoire d'une Marthe, une fausse possédée de Paris. Pour réponse, on la fait communier devant lui, le diable communiant, le diable recevant le corps de Dieu. Le pauvre homme est stupéfait. Il s'humilie devant l'Inquisition, il a trop forte partie, ne dit plus un mot. Un des moyens de Louise, c'est de terrifier l'assistance, disant « Je vois des magiciens !» Chacun tremble pour soi-même. Victorieuse, de la Sainte-Baume, elle frappe jusqu'à Marseille. Son exorciste flamand, réduit à l'étrange rôle de secrétaire et confident du diable, écrit sous sa dictée 5 lettres. Aux capucins de Marseille pour qu'ils somment Gaufridi de se convertir. Aux mêmes capucins pour qu'ils arrêtent Gaufridi, le garrotte avec une étole et le tiennent prisonnier dans telle maison qu'elle indique. Plusieurs lettres aux modérés, à Catherine de France, aux prêtres de la doctrine, qui eux-mêmes se déclaraient contre elle. Enfin, cette femme effrénée, débordée, insulte sa propre supérieure. « Vous m'avez dit au départ d'être humble et obéissante, je vous rends votre conseil. » Vérine, le diable de Louise, démon de l'air et du vent, lui soufflait des paroles folles, légères et d'orgueil insensé, blessant amis et ennemis, l'Inquisition même. Un jour, elle se mit à rire de Michaelis, qui se morfondait à Aix à prêcher dans le désert, tandis que tout le monde venait l'écouter à la Sainte-Baume. « Tu prêches, ô Michaelis, tu dis vrai, mais avance peu. » Et Louise, sans étudier, a atteint, compris le sommaire de la perfection. Cette joie sauvage lui venait surtout d'avoir brisé Madeleine. Un mot y avait fait plus que 100 sermons. Mot barbare. « Tu seras brûlée !» 17 décembre. La petite fille éperdue dit dès lors tout ce qu'elle voulait et la soutint bassement. Elle s'humilia devant tous, demanda pardon à sa mère, à son supérieur Romillon, à l'assistance, à Louise. Si nous en croyons celle-ci, la peureuse la prit à part, la pria d'avoir pitié d'elle, de ne pas trop la châtier. L'autre, tendre comme un roc, clémente comme un écueil, sentit qu'elle était à elle pour en faire ce qu'elle voudrait. Elle la prit, l'enveloppa, l'étourdit et lui ôta le peu qui lui restait d'âme. Second ensorcellement, mais à l'envers de Gaufridi, une possession par la terreur. La créature anéantie marchant sous la verge et le fouet, on la poussa jour par jour dans cette voie d'exquise douleur d'accusée, d'assassiner celui qu'elle aimait encore. Si Madeleine avait résisté, Gaufridi eût échappé. Tout le monde était contre Louise. Michaelis même à Aix, éclipsé par elle dans ses prédications, traité d'elle si légèrement, eût tout arrêté plutôt que d'en laisser l'honneur à cette fille. Marseille défendait Gaufridi, étant effrayée de voir l'Inquisition d'Avignon pousser jusqu'à elle et chez elle prendre un Marseillais. L'évêque surtout et le chapitre défendaient leurs prêtres. Ils soutenaient qu'il n'y avait rien dans tout cela qu'une jalousie de confesseurs, la haine ordinaire des moines contre les prêtres séculiers. Les doctrinaires auraient voulu tout finir, ils étaient désolés du bruit. Plusieurs en eurent tant de chagrin qu'ils étaient prêts de tout laisser et de quitter leur maison. Les dames étaient indignées, surtout Madame Libertat, la dame du chef des royalistes, qui avait rendu Marseille au roi. Toutes pleuraient pour Gaufridi et disaient que le démon seul pouvait attaquer cet agneau de Dieu. Les capucins, à qui Louise si impérieusement ordonnait de le prendre au corps, étaient, comme tous les ordres de Saint-François, ennemis des dominicains. Ils furent jaloux du relief que ceux-ci tiraient de leur possédé. La vie errante, d'ailleurs, qui mettait les capucins en rapport continuel avec les femmes, leur faisait souvent des affaires de mœurs. Ils n'aimaient pas qu'on se mît à regarder de si près la vie des ecclésiastiques. Ils prirent parti pour Gaufridi. Les possédés n'étaient pas chose si rare qu'on ne pût s'en procurer. Ils en eurent un à point nommé. Son diable, sous l'influence du cordon de Saint-François, dit tout le contraire du diable de Saint-Dominique. Il dit, et ils écrivirent en son nom, que Gaufridi n'était nullement magicien, qu'on ne pouvait l'arrêter. On ne s'attendait pas à cela, à la sainte baume. Louise parut interdite. Elle trouva à dire seulement qu'apparemment les capucins n'avaient pas fait jurer à leur diable de dire vrai. Pauvre réponse, qui fut pourtant appuyée par la tremblante Madeleine. Celle-ci, comme un chien battu et qui craint de l'être encore, était capable de tout, même de mordre et de déchirer. C'est par elle qu'en cette crise, Louise horriblement mordit. Elle-même dit seulement que l'évêque, sans le savoir, offensait Dieu. Elle cria contre les sorciers de Marseille, sans nommer personne. Mais le mot cruel et fatal, elle le fit dire par Madeleine. Une femme qui depuis 2 ans avait perdu son enfant fut désignée par celle-ci comme l'ayant étranglée. La femme, craignant les tortures, s'enfuit ou se tint cachée. Son mari, son père, en larmes, vinrent à la sainte baume, sans doute pour fléchir les inquisiteurs. Mais Madeleine n'eut jamais osé se dédire. Elle répéta l'accusation. Qui était en sûreté? Personne. Du moment que le diable était pris pour vengeur de Dieu, du moment qu'on écrivait sous sa dictée les noms de ceux qui pouvaient passer par les flammes, chacun eut de nuit et de jour le cauchemar affreux du bûcher. Marseille, contre une telle audace de l'inquisition papale, eût dû s'appuyer du parlement d'Aix. Malheureusement, elle savait qu'elle n'était pas aimée à Aix. Celle-ci, la petite ville officielle de magistrature et de noblesse, a toujours été jalouse de l'opulente splendeur de Marseille, cette reine du Midi. Ce fut tout au contraire l'adversaire de Marseille, l'inquisiteur papal, qui, pour prévenir l'appel de Gaufridi au Parlement, y eut recours le premier. C'était un corps très fanatique, dont les grosses têtes étaient des nobles enrichis dans l'autre siècle au massacre des Vaudois. Comme juge laïque, d'ailleurs, ils furent ravis de voir un inquisiteur du pape créer un tel précédent, avouer que dans l'affaire d'un prêtre, dans une affaire de sortilège, l'inquisition ne pouvait procéder que pour l'instruction préparatoire. C'était comme une démission que donnaient les inquisiteurs de toutes leurs vieilles prétentions. Un côté flatteur aussi, où mordirent ceux d'Aix comme avaient fait ceux de Bordeaux. C'était que, laïcs, ils fussent érigés par l'Église elle-même en censeurs et réformateurs des mœurs ecclésiastiques. Dans cette affaire, où tout devait être étrange et miraculeux, ce ne fut pas la moindre merveille de voir un démon si furieux devenir tout à coup flatteur pour le Parlement, politique et diplomate. Louise charma les gens du roi par un éloge du feu roi. Henri IV, qui l'aurait cru, fut canonisé par le diable. Un matin, sans à propos, il éclata en éloge de ce pieux et saint roi qui venait de monter au ciel. Un tel accord des deux anciens ennemis, le Parlement et l'Inquisition, celle-ci désormais sûre du bras séculier, des soldats et du bourreau, une commission parlementaire envoyée à la sainte baume pour examiner les possédés, écouter les dépositions, leurs accusations et dresser des listes, c'était chose vraiment effrayante. Louise, sans ménagement, désigna les capucins, défenseurs de Gaufridi, et annonça qu'ils seraient punis temporellement, dans leur corps et dans leur chair. Les pauvres pères furent brisés. Leur diable ne souffla plus mot. Ils allèrent trouver l'évêque et lui dirent qu'en effet, on ne pouvait guère refuser de représenter Gaufridi à la sainte baume et de faire acte d'obéissance, mais qu'après cela, l'évêque et le chapitre le réclameraient, le replaceraient sous la protection de la justice épiscopale. On avait calculé aussi sans doute que la vue de cet homme aimé allait fort troubler les deux filles, que la terrible Louise elle-même serait ébranlée des réclamations de son cœur. Ce cœur, en effet, s'éveilla à l'approche du coupable. La furieuse semble avoir eu un moment d'attendrissement. Je ne connais rien de plus brûlant que sa prière pour que Dieu sauve celui qu'elle a poussé à la mort. « Grand Dieu, je vous offre tous les sacrifices qui m'ont été offerts depuis l'origine du monde et le seront jusqu'à la fin. Le tout pour Louis. Je vous offre tous les pleurs des saints, toutes les extases des anges, le tout pour Louis. Je voudrais qu'il y eût plus d'âmes encore pour que l'oblation fût plus grande. Le tout pour Louis. Pater des Caelis Deus, miserere Ludovici fili redemptor mundi Deus, miserere Ludovici, etc. Vaine pitié, funeste d'ailleurs, ce qu'elle eût voulu, c'était que l'accusé ne s'endurcit pas, qu'il s'avoua coupable, auquel cas il était sûr d'être brûlé dans notre jurisprudence. Elle-même, du reste, était finie, elle ne pouvait plus rien. L'inquisiteur Michaelis, humilié de n'avoir vaincu que par elle, irrité contre son exorciste flamand qui s'était tellement subordonné à elle et avait laissé voir à tous les secrets ressorts de la tragédie, Michaelis venait justement pour briser Louise, sauver Madeleine et la lui substituer, s'il se pouvait, dans ce drame populaire. Ceci n'était pas maladroit et témoigne d'une certaine entente de la scène. L'hiver et l'advent avaient été remplis par la terrible Sibylle, la bacchante furieuse. Dans une saison plus douce, dans un printemps de Provence, au carême, aurait figuré un personnage plus touchant, un démon tout féminin, dans une enfant malade et dans une blonde timide. La petite demoiselle appartenant à une famille distinguée, la noblesse s'y intéressait, et le Parlement de Provence. Michaelis, loin d'écouter son flamand, l'homme de Louise, lorsqu'il voulut entrer au petit conseil des parlementaires, lui ferma la porte. Un capucin venu aussi au premier mot de Louise cria « Silence, diable maudit !» Gaufridi, cependant, était arrivé à la Sainte-Baume, où il faisait triste figure. Homme d'esprit, mais faible et coupable, il ne pressentait que trop la fin d'une pareille tragédie populaire, et, dans sa cruelle catastrophe, il se voyait abandonné, trahi de l'enfant qu'il aimait. Il s'abandonna lui-même, et quand on le mit en face de Louise, elle apparut comme un juge, un de ces vieux juges d'église cruels et subtils scolastiques. Elle lui posa des questions de doctrine, et à tout il répondait oui, lui accordant même les choses les plus contestables, par exemple, que le diable peut être cru en justice sur sa parole et son serment. Cela ne dura que 8 jours, du 1er au 8 janvier. Le clergé de Marseille le réclama. Ses amis, les capucins, dirent avoir visité sa chambre et n'avoir rien trouvé de magique. 4 chanoines de Marseille vinrent d'autorité le prendre et le ramenèrent chez lui. Gaufridi était bien bas, mais ses adversaires n'étaient pas bien hauts. Même les 2 inquisiteurs, Michaelis et le Flamand, étaient honteusement en discorde. La partialité du second pour Louise, du premier pour Madeleine, dépassa les paroles mêmes, et l'on en vint aux voies de fait. Ce chaos d'accusations, de sermons, de révélations que le diable avait dicté par la bouche de Louise, le Flamand, qui l'avait écrit, soutenait que tout cela était parole de Dieu et craignait qu'on y touchât. Il avouait une grande défiance de son chef Michaelis, craignant que dans l'intérêt de Madeleine, il n'altérât ses papiers de manière à perdre Louise. Il les défendit tant qu'il put, s'enferma dans sa chambre et soutint un siège. Michaelis, qui avait les parlementaires pour lui, ne put prendre le manuscrit qu'au nom du roi et en enfonçant la porte. Louise, qui n'avait peur de rien, voulait au roi opposer le pape. Le Flamand porta appel contre son chef Michaelis à Avignon, au légat. Mais la prudente cour papale fut effrayée du scandale de voir un inquisiteur accuser un inquisiteur. Elle n'appuya pas le Flamand, qui n'eut plus qu'à se soumettre. Michaelis, pour le faire taire, lui restitua les papiers. Ceux de Michaelis, qui forment un second procès-verbal assez plat et nullement comparable à l'autre, ne sont remplis que de Madeleine. On lui fait de la musique pour essayer de la calmer. On note très soigneusement si elle mange ou ne mange pas. On s'occupe trop d'elle en vérité, et souvent de façon peu édifiante. On lui adresse des questions étranges sur le magicien, sur les places de son corps qui pouvaient avoir la marque du diable. Elle-même fut examinée. Quoiqu'elle dût l'être à Aix par les médecins et chirurgiens du Parlement, Michaelis, par excès de zèle, la visita à la Sainte-Baume et il spécifie ses observations. Point de matrone appelée, les juges, laïcs et moines, ici réconciliés et n'ayant pas à craindre leur surveillance mutuelle, se passèrent apparemment ce mépris des formalités. Ils avaient un juge en Louise. Cette fille hardie stigmatisa ses indécences au fer chaud. Ceux qu'engloutit le déluge n'avaient pas tant fait que ceci. Sodome, rien de pareil n'a jamais été dit de toi. Elle dit aussi, Madeleine est livrée à l'impureté. C'était en effet le plus triste. La pauvre folle, par une joie aveugle de vivre, de n'être pas brûlée, ou par un sentiment confus que c'était elle maintenant qui avait action sur les juges, chanta, dansa par moments, avec une liberté honteuse, impudique et provocante. Le prêtre de la doctrine, le vieux Romillon, en rougit pour son Ursuline. Choqué de voir ses hommes admirer ses longs cheveux, il dit qu'il fallait les couper, lui ôter cette vanité. Elle était obéissante et douce dans ses bons moments, et on aurait bien voulu en faire une Louise. Mais ces diables étaient vaniteux, amoureux, non éloquents et furieux comme ceux de l'autre. Quand on voulut les faire prêcher, ils ne dirent que des pauvretés. Michaelis fut obligé de jouer la pièce tout seul. Comme inquisiteur en chef, tenant à dépasser de loin son subordonné flamand, il assura avoir déjà tiré de ce petit corps une armée de 6660 diables. Il n'en restait qu'une centaine. Pour mieux convaincre le public, il lui fit rejeter le charme ou sortilège qu'elle avait avalé, disait-il, et le lui tira de la bouche dans une matière gluante. Qui eût refusé de se rendre à cela? L'assistance demeura stupéfaite et convaincue. Madeleine était en bonne voie de salut. L'obstacle était elle-même. Elle disait à chaque instant des choses imprudentes qui pouvaient irriter la jalousie de ses juges et leur faire perdre patience. Elle avouait que tout objet lui représentait Gaufridi, qu'elle le voyait toujours. Elle ne cachait pas ses songes érotiques. « Cette nuit, disait-elle, j'étais au sabbat. Les magiciens adoraient ma statue toute dorée. Chacun d'eux, pour l'honorer, lui offrait du sang qu'il tirait de leurs mains avec des lancettes. Lui, il était là, à genoux, la corde au cou, me priant de revenir à lui et de ne pas le trahir. Je résistais. Alors il dit, « Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille mourir pour elle ?»« Moi, » dit un jeune homme, et le magicien l'immola. Dans un autre moment, elle le voyait qui lui demandait seulement un seul de ses beaux cheveux blonds. Et comme je refusais, il dit, « La moitié au moins d'un cheveu. » Elle assurait cependant qu'elle résistait toujours. Mais un jour, la porte se trouvant ouverte, voilà notre converti qui courait à toutes jambes pour rejoindre Gaufridi. On la reprit, au moins le corps, mais l'âme, Michaelis ne savait comment la reprendre. Il avisa heureusement son anneau magique. Il le tira, le coupa, le détruisit, le brûla, supposant aussi que l'obstination de cette personne si douce venait des sorciers invisibles qui s'introduisaient dans la chambre, il y mit un homme d'armes, bien solide, avec une épée, qui frappait de tous les côtés et taillait les invisibles en pièces. Mais la meilleure médecine pour convertir Madeleine, c'était la mort de Gaufridi. Le 5 février, l'inquisiteur alla prêcher le carême à Aix, vit les juges et les anima. Le Parlement, docile à son impulsion, envoya prendre à Marseille l'imprudent qui, se voyant si bien appuyé de l'évêque, du chapitre, des capucins, de tout le monde, avait cru qu'on oserait. Madeleine d'un côté, Gaufridi de l'autre, arrivèrent à Aix. Elle était si agitée qu'on fut contraint de la lier. Son trouble était épouvantable et l'on n'était plus sûr de rien. On avisa un moyen bien hardi avec cette enfant si malade, une de ces peurs qui jettent une femme dans les convulsions et parfois donnent la mort. Un vicaire général de l'archevêché dit qu'il y avait en ce palais un noir et étroit charnier, ce qu'on appelle en Espagne un pourrissoir, comme on en voit à l'Escurial. Anciennement, on y avait mis ce consommé d'anciens ossements de morts inconnus. Dans cet antre sépulcral, on introduisit la fille tremblante. On l'exorcisa en lui appliquant au visage ses froids ossements. Elle ne mourut pas d'horreur, mais elle fut dès lors à discrétion, et l'on eut ce qu'on voulait, la mort de la conscience, l'extermination de ce qui restait de sens moral et de volonté. Elle devint un instrument souple, à faire tout ce qu'on voulait, flatteuse, cherchant à deviner ce qui plairait à ses maîtres. On lui montra des huguenots et elle les injuria. On la mit devant Gaufridi et elle lui dit par cœur les griefs d'accusation, mieux que n'eussent fait les gens du roi. Cela ne l'empêchait pas de japper en furieuse quand on la menait à l'église, d'ameuter le peuple contre Gaufridi en faisant blasphémer son diable au nom du magicien. Belzébuth disait par sa bouche, « Je renonce à Dieu, au nom de Gaufridi, je renonce à Dieu », etc. Et au moment de l'élévation, retombe sur moi le sang du juste de la part de Gaufridi. Horrible communauté. Ce diable à deux damnait l'un par les paroles de l'autre. Tout ce qu'il disait par Madeleine, on l'imputait à Gaufridi. Et la foule épouvantée avait hâte de voir brûler le blasphémateur muet dont l'impiété rugissait par la voix de cette fille. Les exorcistes lui firent cette cruelle question, à laquelle ils eussent eux-mêmes pu répondre bien mieux qu'elle. « Pourquoi, Belzébuth, parles-tu si mal de ton grand ami ?» Elle répondit ces mots affreux. « S'il y a des traîtres entre les hommes, pourquoi pas entre les démons? Quand je me sens avec Gaufridi, je suis à lui pour faire tout ce qu'il voudra. Et quand vous me contraignez, je le trahis et m'en moque. » Elle ne soutint pas pourtant cette exécrable risée. Quoique le démon de la peur et de la servilité semblât l'avoir tout envahi, il y eut place encore pour le désespoir. Elle ne pouvait plus prendre le moindre aliment. Et ces gens qui, depuis 5 mois, l'exterminaient d'exorcismes et prétendaient l'avoir allégée de 6 000 ou 7 000 diables, sont obligés de convenir qu'elle ne voulait plus que mourir et cherchait avidement tous les moyens de suicide. Le courage seul lui manquait. Une fois, elle se piqua avec une lancette mais n'eut pas la force d'appuyer. Une fois, elle saisit un couteau et, quand on le lui ôta, elle tâcha de s'étrangler. Elle s'enfonçait des aiguilles, enfin essaya follement de se faire entrer dans la tête une longue épingle par l'oreille. Que devenait Gaufridi? L'inquisiteur, si long sur les deux filles, n'en dit presque rien. Il passe comme sur le feu. Le peu qu'il dit est bien étrange. Il compte qu'on lui banda les yeux pendant qu'avec des aiguilles, on cherchait sur tout son corps la place insensible qui devait être la marque du diable. Quand on lui ôta le bandeau, il apprit avec étonnement et horreur que par 3 fois, on avait enfoncé l'aiguille sans qu'il la sentît, donc il était 3 fois marqué du signe d'enfer. Et l'inquisiteur ajouta, « Si nous étions en Avignon, cet homme serait brûlé demain. » Il se sentit perdu et ne se défendit plus. Il regarda seulement si quelques ennemis des Dominicains ne pourraient lui sauver la vie. Il dit vouloir se confesser aux oratoriens, mais ce nouvel ordre, qu'on aurait pu appeler le juste milieu du catholicisme, était trop froid et trop sage pour prendre en main une telle affaire, si avancée d'ailleurs, et désespérée. Alors il se retourna vers les moines mendiants, se confessa aux capucins, avoua tout et plus que la vérité pour acheter la vie par la honte. En Espagne, il aurait été relaxé certainement, sauf une pénitence dans quelques couvents. Mais nos parlements étaient plus sévères. Ils tenaient à constater la pureté supérieure de la juridiction laïque. Les capucins, eux-mêmes peu rassurés sur l'article des mœurs, n'étaient pas gens à attirer la foudre sur eux. Ils enveloppaient Gaufridi, le gardaient, le consolaient jour et nuit, mais seulement pour qu'il s'avoue magicien et que, la magie restant le grand chef d'accusation, on pût laisser au second plan la séduction d'un directeur qui compromettait le clergé. Donc ses amis, les capucins, par obsession, caresses et tendresses, tirent de lui l'aveu mortel qui, disait-il, sauvait son âme, mais qui, bien certainement, livrait son corps au bûcher. L'homme étant perdu, fini, on en finit avec les filles qu'on ne devait pas brûler. Ce fut une facétie. Dans une grande assemblée du clergé et du parlement, on fit venir Madeleine, et, parlant à elle, on somma son diable Belzébuth de vider les lieux, sinon de donner ses oppositions. Il n'eut garde de le faire, et partit honteusement. Puis on fit venir Louise, avec son diable Vérine. Mais avant de chasser un esprit si ami de l'Église, les moines régalèrent les parlementaires, novices en ces choses, du savoir-faire de ce diable, en lui faisant exécuter une curieuse pantomime. Comment font les séraphins, les chérubins, les trônes devant Dieu? « Chose difficile, dit Louise, ils n'ont pas de corps. » Mais comme on répéta l'ordre, elle fit effort pour obéir, imitant le vol des uns, le brûlant désir des autres, et enfin l'adoration en se courbant devant les juges et la tête en bas. On vit cette fameuse Louise, si fière et si indomptée, s'humilier, baiser le pavé, et les bras étendus, s'y appliquer de tout son long. Singulière exhibition, frivole, indécente, par laquelle on lui fit expier son terrible succès populaire. Elle gagna encore l'assemblée par un cruel coup de poignard qu'elle frappa sur Gaufridi, qui était là, garrotté. « Maintenant, lui dit-on, où est Belzébuth, le diable sorti de Madeleine ? Je le vois distinctement à l'oreille de Gaufridi. Est-ce assez de honte et d'horreur ? Resterait à savoir ce que cet infortuné dit à la question. » On lui donna l'ordinaire et l'extraordinaire. Tout ce qu'il y dut révéler éclairerait sans nul doute la curieuse histoire des couvents de femmes. Les parlementaires recueillaient avidement ces choses-là comme armes qui pouvaient servir, mais ils les tenaient sous le secret de la cour. L'inquisiteur Michaelis, fort attaqué dans le public pour tant d'animosité qui ressemblait fort à la jalousie, fut appelé par son ordre qui s'assemblait à Paris et ne vit pas le supplice de Gaufridi brûlé vif à Aix 4 jours après, 30 avril 1611. La réputation des dominicains, entamée par ce procès, ne fut pas fort relevé par une autre affaire de possession qu'ils arrangèrent à Beauvais, novembre, de manière à se donner tous les honneurs de la guerre, et qu'ils imprimèrent à Paris. Comme on avait reproché surtout au diable de Louise de ne pas parler latin, la nouvelle possédée, Denise Lacaille, en jargonnait quelques mots. Ils en firent grand bruit, la montrèrent souvent en procession, la promenèrent même de Beauvais à Notre-Dame de Liesse. Mais l'affaire resta assez froide. Ce pèlerinage picard n'eut pas l'effet dramatique, les terreurs de la Sainte-Baume. Cette Lacaille avec son latin n'eut pas la brûlante éloquence de la provençale, ni sa fougue, ni sa fureur. Le tout n'aboutit à rien qu'à amuser les huguenots. Qu'advint-il des deux rivales, de Madeleine et de Louise? La première, du moins son nombre, fut tenue en terre papale de peur qu'on ne la fît parler sur cette funèbre affaire. On ne la montrait en public que comme exemple de pénitence. On la menait coupée avec de pauvres femmes, du bois qu'on vendait pour aumône. Ses parents, humiliés d'elle, l'avaient répudiée et abandonnée. Pour Louise, elle avait dit pendant le procès « Je ne m'en glorifierai pas. Le procès fini, j'en mourrai. » Mais cela n'arriva point. Elle ne mourut pas. Elle tua encore. Le diable meurtrier qui était en elle était plus furieux que jamais. Elle se mit à déclarer aux inquisiteurs par nom, prénom et surnom tous ceux qu'elle imaginait affiliés à la magie, entre autres une pauvre fille nommée Honorée, aveugle des deux yeux, qui fut brûlée vive. « Prions Dieu, dit en finissant le père Michaelis, que le tout soit à sa gloire et à celle de son Église. »